d'être baladin, d'être comédien. Donc la comédie à l'italienne, la comédie à la française, les gens de théâtre, ceux qui font vraiment de la musique, ne trompent personne, ne sont pas du tout dans l'abus. Et là, vous avez vu effectivement, ils sont d'ailleurs bien ensemble. Il n'y a pas, le sol est beaucoup plus stable. Donc on est dans une comédie qui, dont on connaît bien les règles. Il n'y a pas d'abus. Et au contraire, et une complicité, là c'est pas un monde finissant, ils sont justement un peu à part dans leur monde. On n'est pas dans l'espèce de fausse lumière fragile, on est au contraire une lumière peut-être plus rare, lumière de lune, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Pierrot la lune, etc. Et regardez, les rapports des personnages entre eux ne sont pas du tout ce que l'on voit dans les peintures, on va dire, diurnes de Watteau. Ah, il a fait souffrant. Et là, regardez, cette fois-ci, encore, l'amour dans un théâtre à l'italienne. Alors là, effectivement, chacun joue le jeu, mais au sens strict. Et puis Pierrot, bah, se trouve, tout à coup, c'est lui le guitariste, là, lui. Le guitariste, vous voyez, un peu satire, etc., avec pouvoir, là, mais il est debout, il discute, enfin, vous voyez, là, on est dans des attitudes totalement différentes, très claires. Et dans des lumières, là, la lune se dévoile même clairement ici. Donc là encore, eux, ils sont loin, ils sont entre eux aussi. Là, c'est pas dans un rapport, y compris de surveillance et d'ironie, où chacun va essayer d'espionner, de jouer avec l'autre. Ils jouent ensemble. Il y a une sorte de bande, une troupe, ce qui n'est pas du tout le cas dans la cour. Il ne s'agit pas d'une troupe, ce sont que des individualités, des individus, des égoïsmes qui essaient de se faire des places. Donc vous avez aussi deux façons d'être ensemble qui sont assez clairement ici. Alors ce monde qui semble plus vrai, bien que déguisé, qui semble moins à la lumière, qui semble plus caché, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi qu'à cette même époque-là, vous avez des philosophes, des penseurs qui commencent à penser justement. Le vrai monde, c'est peut-être justement celui qui est caché, celui qui n'a pas le pouvoir, celui du tiers état, etc., etc. Il y a sans doute, on voit bien dans la peinture de Watteau qu'il y a des tensions sociales qui ne sont pas explicites. Ce n'est pas un peintre révolutionnaire, il n'est pas question de révolution, etc. Mais il décrit des mondes bien différents. Et lui s'identifie assez clairement avec le monde, justement, soit de l'enfance, soit des comédiens, du véritable jeu. Et du Pierrot que l'on voit encore ici. D'ailleurs, ici, regardez, dans ce monde, effectivement, alors, ça, vous avez vu, c'est Happy Pierrot, donc le Pierrot heureux. Donc, il est possible d'être heureux selon d'autres critères. Là, le musicien a prêté, justement, à un moment donné, à la femme. Et on est sur un banc d'égalité, ici, et on est sur quelque chose de plus stable. Et le personnage qui était péjoratif semble ici un peu assagi. Et là, c'est le jeune homme qui est assis par terre. Et donc là, on est dans une sorte d'harmonie beaucoup plus claire que dans les peintures précédentes. Donc derrière les peintures de Watteau, il se joue des choses discrètes qui valent le coup d'être regardées de près, au-delà des simples scènes qui, alors très souvent, il a été vu justement comme un peintre un peu ravissant, superficiel, des fêtes de la cour, des beaux habits, etc. Mais si on regarde de plus près, c'est sans doute plus complexe que ça. Alors il est mort très jeune en plus, il est mort à 30 ans, pas très jeune, 37 ans, c'est très jeune, effectivement. Et donc, si vous voulez, c'est aussi quelqu'un qui dont on n'a pas pu voir l'évolution. Et ensuite, au XVIIIe siècle, vu l'évolution, y compris sociologique et artistique, c'est aussi quelqu'un qui aurait sans doute été certainement très, très fécond, puisque c'est au plus une très très grande sensibilité. Par contre, ce qu'on voit aussi chez Watteau, c'est que la sensibilité des personnages, des situations, on la voit aussi dans sa touche, qui est hypersensible, que ce soit dans le flou, dans la brillance. Alors voilà encore la comédie italienne, Pierrot, mais ici il est pas trahi, c'est un jeu. Donc c'est quelque chose qu'il a peint assez souvent. Voilà d'ailleurs une peinture, on la voit un peu mieux. Et là, en soi, ce sont donc de véritables comédiens. Alors ça, c'est la comédie à la française. Donc il y a deux types de comédie, comédie italienne, comédie à la française, qui est un petit peu plus, on va dire, sans doute enjoué, un petit peu plus dans les postures, un petit peu moins dans la farce, avec des attitudes. Alors, je connais moins les personnages de la comédie à la française. Alors, l'ironie et la critique, il y avait toujours eu ça, même à la cour de Louis XIV, Molière, quand même, c'est pas n'importe qui. Donc, si vous voulez, cette espèce de... Mais, en peinture, on la connaît moins. Et là, la peinture de Watteau est beaucoup plus discrète, hein, que les ironies ou les critiques de Molière. Alors donc, les mêlées peintures de comédie sont très souvent, vous avez vu, comme des recoins du bois, et c'est pas du tout la même lumière, et le sol n'est pas représenté avec la même fragilité.
Voilà, c'est là, ici. Au secours.
Vous voyez pas la flèche ? Elle est en bas ? Oui, c'est ici. Vous la rapetissez ? Rapetissez l'image ?
Mais j'essaie. Il n'y en a peut-être plus derrière.
Ah, il n'y en a peut-être plus derrière, pas bête. Ah bah oui, c'est ça, voilà. Donc alors, ça c'était pour...
On n'a jamais le même à la maison.
Mais je voulais vous montrer un peu Watteau aussi dans son siècle. Donc, il meurt jeune, donc on ne peut pas très bien savoir, mais vous... Alors, je ne vous montre pas toutes ces... Enfin, je peux vous en montrer certaines, hein. C'est ces grandes peintures qui sont connues, effectivement, dans lesquelles on peut zoomer. Ah ben non, elles sont ailleurs. Bon, pas très grave. Juste Watteau comme dessinateur, pour voir deux, trois trucs avant de montrer des contemporains. Watteau, dessinateur, on l'avait vu voilà plusieurs années. Et là, on retrouve encore le même personnage, donc des études. Alors, ça montre d'ailleurs dans ces planches de croquis qu'il fait des choix. Il a une sorte de catalogue de têtes. S'il met un type de tête sur tel personnage, c'est pas non plus un hasard. Il y a une sorte de catalogue d'expression et de visage. Et on retrouve ici nos deux amis, là, toujours le même, alors que vous avez d'autres figures qui sont plus classiques. Là, alors c'est un très très grand dessinateur avec une virtuosité. Alors vous voyez aussi quand on dit qu'il dessine en peignant, il peint en dessinant. Ça, c'est à peu près la même touche. La façon dont son dessin est très pictural, l'épaisseur des traits, la virtuosité de la touche, les jeux d'ombre qu'il construit quasiment avec, y compris le flou, qui va être capable de frotter en estompant légèrement sur le visage, c'est vraiment un dessinateur extraordinaire, et on le voit là aussi. Hein. Dans les études de plis, de volume, les anatomies, les postures, c'est exceptionnel. Donc c'est pas étonnant non plus. Et là aussi, regardez les drapés, et le graphisme sur les plis du drapé, c'est vraiment incroyable de finesse et de légèreté. Donc, et alors ce qui est intéressant, ça c'est quelque chose aussi, en ce sens-là, Watteau est moderne, c'est que ces peintures ne sont pas laborieuses. Il n'y a pas d'un côté un dessin qui serait préparatoire et qu'on oublierait pour ensuite colorier ou faire des corps qui seraient... Dans sa peinture, il y a encore l'énergie du dessin. Et ça c'est quelque chose qui plus tard sera recherché par beaucoup d'artistes, c'est retrouver dans la peinture l'énergie de l'esquisse, ce qu'ils appelleront la fraîcheur de l'esquisse. Parce que très souvent, les peintres, les dessinateurs, dans leur dessin, ils sont très vivants. Puis quand ils peignent, il y a quelque chose d'un peu plus pesant. Parce que la peinture, elle est plus lourde, il y a des couleurs, il y a des masses. Il y a l'idée de quelque chose qui est plus grand, il y a aussi l'idée de quelque chose qui sera public, donc il faudrait peut-être un peu mieux maîtriser. Donc on a moins de liberté, souvent, dans l'œuvre finale. Alors que dans le dessin, il y a une grande liberté. Watteau, c'est quelqu'un qui, justement, réussit dans sa peinture à avoir toujours cette espèce de fraîcheur, hein, y compris de lâcher prise, d'un certain côté. C'est pas du tout laborieux, la peinture de Watteau. Il laisse totalement apparaître la trace de son pinceau, le flou, etc. Bon, ça, c'est un peu plus classique. Les visages en raccourci, hein, les profils perdus, etc. Alors, je vais pas vous les montrer tous. Là aussi, hein, ça, c'est quasiment la différence. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ce qu'on appelle le travail en mi-teinte, vous savez, hein, c'est donc travailler sur un fond... plus ou moins de teinte moyenne, dans lesquelles on peut distribuer à la fois l'ombre et la lumière. Ah, ça aussi, c'est exceptionnel. Là, c'est, comme je vous dis, son dessin n'est pas qu'un dessin. Il y a déjà de la peinture dans son dessin. Lumière, couleur, tache, touche. Et quand je vous parlais de Degas et de Toulouse-Lautrec tout à l'heure, on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de fraîcheur, ce travail sur l'ombre et la lumière, les contre-jours. Comment il fait ressortir un visage par quelques touches de blanc, de rehaussé, etc. C'est assez exceptionnel. Alors la plupart de ces dessins, vous les trouvez, si vous voulez les retrouver, il faut aller sur la base Joconde. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Base Joconde, c'est la réunion des musées nationaux qui mutualise tous les dessins qui sont dans tous les musées de France. Et si vous mettez Antoine Watteau, dessin, ben, normalement vous trouvez, alors attention, parce qu'il y en a plein, je crois que j'en ai récupéré quelques centaines, mais il y a peut-être 600 pages. Donc, oui. certains. Donc voilà, le bateau dessinateur, alors, c'est là aussi, il est plus varié. C'est que vous avez chez bateau dessinateur quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on voit bien aussi que dans ces peintures, il y a des choix. Hein, et c'est assez clair. Alors, j'ai mon pardon. Maintenant, les contemporains de bateau, là aussi, il y a des choses qui sont assez dérangeantes et assez perturbantes. Alors, la question de l'érotisme, justement, et de la sexualité, c'est quelque chose qui, au XVIIIe siècle, finalement, c'est pas plus mal non plus, il n'est plus tabou. La religion, j'ai dit, elle est quand même géométrie variable, selon l'usage que certains puissants, plus ou moins, ou ça sert de l'enfer. Mais vous avez le libertinage d'un côté, qui est une sorte de jeu avec cela, qui est un jeu qui aussi qui se dégage du carcan religieux qui était aussi terrible. Donc on peut comprendre aussi que dans le libertinage, il y a la liberté. Il y a aussi l'idée qu'on est légitime dans son désir. Donc il y a quelque chose qui peut être aussi très moderne. Même si ça peut être traduit par une sorte de cynisme et d'égoïsme, vous avez quand même l'affirmation d'un désir individuel, d'une singularité qui, quelque part, est importante et va aussi déboucher sur la Révolution française. Donc dans la Révolution française, vous avez à la fois les critères, on va dire, sociaux, sociologiques d'inégalité, mais vous avez aussi l'idée d'affirmation d'individus. C'est pour ça que la question de la démocratie est fondamentale, on le verra un peu plus tard, puisque c'est aussi l'idée qu'on n'est plus des sujets, on est aussi des acteurs, hein, et donc des individus qui ont des choses à dire, des choses à penser, etc. Donc le libertinage, c'est aussi l'affirmation de ces individualités. Et ça passe évidemment aussi par la sexualité et le dégagement de... Alors, François, des normes et des tabous religieux, qui surtout, en plus, étaient souvent hypocrites. Alors François Boucher, c'est donc un des grands peintres de cette période-là. C'est alors le grand peintre officiel, décorateur, qui est le très proche de la cour. Alors que Watteau est à la cour, parce qu'en fait, à la cour, vous avez plein de peintres. Hein, c'est un peu comme des peintres, c'est un peu comme des fonctionnaires, en fait, hein, de la cour. C'est que vous avez des peintres décorateurs, des peintres de portraits, des peintres de paysages, et tout ça. Et vous avez des peintres qui sont plus ou moins en cour, hein, plus ou moins proches du pouvoir, etc. Vraisemblablement, Watteau est quand même quelqu'un qui est un peu en marge, hein, qui est là une sorte de témoignage des plaisirs comme ça, les fêtes, mais qui ne s'approche pas des puissants. Boucher est quelqu'un qui a des commandes beaucoup plus officielles, des peintures plus grandes, etc. Mais Boucher, c'est aussi quelqu'un qui est... Alors, vous avez aussi des peintures qui sont très clairement érotiques, puisque là, c'est une vision de Leda et les signes. Alors, je ne sais pas où elle est. J'ai même pas réussi à savoir dans quel musée ou dans quelle collection elle était. Mais vous voyez que la sexualité et l'érotisme, ce n'est pas uniquement Watteau qui le suggère. Vous avez des artistes qui, ça, ce sont des commandes privées. Ce n'est pas présenté à la foule, etc. Mais Leda et le cygne, c'est effectivement toujours Jupiter qui se transforme en cygne, effectivement. Sauf que là, c'est un jeu complice, évidemment, parce que Leda est totalement complice du cygne, etc. Donc vous voyez que chez Boucher, vous avez la sexualité d'explicite en cachette, mais en fait on la voit aussi dans les peintures officielles, puisque derrière les mythologies grecques, il y a souvent des enjeux de séduction, de pouvoir, etc. Mais Boucher n'a pas cette espèce de mélancolie devant l'expression d'un désir sexuel ou d'un désir amoureux. Alors que chez Watteau, vous avez une sorte de gêne ou de rébellion ou de distance par rapport à justement un abus, hein, alors que chez Boucher c'est vu comme un jeu. Alors, par contre, il y a des choses qui sont un peu moins drôles et qui sont souvent discrètes et cachées. C'est la fameuse idée de l'oiseau en cage qu'on verra assez souvent, ou de la cruche, ou de l'oiseau, etc. Et de cette très jeune fille avec un oiseau en cage. Alors, c'est un chardonneret dans une cage, mais en fait, il y a une sorte de code de représentation qui est plus ou moins avoué. L'oiseau en cage, c'est la virginité. L'oiseau qui sort de la cage, c'est la perte de la virginité. C'est donc cette jeune fille ici, très très jeune, exprime très clairement, elle est montrée très clairement comme un fantasme de limite pédophile, hein, de la part du peintre, d'une jeune fille qui a déjà perdu sa virginité, etc. Donc qui a pu déjà être abusée, etc. Et ça, alors, ça c'est quelque chose dont on a peu parlé jusqu'à présent, mais c'est assez clair. On pourrait revenir là-dessus, c'est-à-dire de quoi faire des énormes. Quand on parle d'abus, Et quand on parle d'abus de pouvoir, et quand on parle de ce genre de choses, on peut très bien imaginer l'abus et le type d'abus qu'il pouvait y avoir tous azimuts dans une société extrêmement inégalitaire et hiérarchisée. Alors, je me permets de montrer ça, parce que vous verrez que ce n'est pas la seule chose. Donc, et la rose, hein, effectivement, la fleur dont on va cueillir les pétales, etc. Et d'ailleurs, cette jeune fille, elle a déjà... elle n'a même pas 10 ans. Elle a déjà un col, elle a déjà un petit décolleté, etc. Donc, c'est déjà une sorte de poupée sexuée. Et vous avez vu que Watteau représente les jeunes enfants de façon différente. Vous voyez aussi la façon de représenter l'enfance, il y a des enjeux. Hein, et là, c'est déjà un peu moins drôle. Alors, chez Watteau, hein, chez Boucher, vous avez quand même la jardinière surprise. Vous voyez, c'est des choses que Watteau va peindre, mais Boucher aussi. Là, c'est toujours Boucher, alors là encore, c'est très clair. Là, c'est les bergers et les bergères. Là, ça amuse très clairement. Et là, on est plutôt dans un jeu érotique amoureux avec les bergers et les bergères. Alors, on imagine aussi, vous savez, cette espèce de nature. Alors, les bergers et les bergères peuvent se permettre des choses. Donc, on se déguise en berger et en bergère. On connaît Marie-Antoinette avec le Trianon. Et c'est ce que je dis aussi sur les marges des grands jardins et des grands palais, les marges du pouvoir. Vous avez aussi le jeu et la sexualité qui s'expriment clairement. Là encore, avec les petits moutons. C'est des bergers et bergères d'opérette, un petit peu, on va dire, mais qui, évidemment, alors, dans la peinture officielle, si ce sont des bergers, c'est aussi des bergères, c'est comme dans l'hypocrisie au XIXe siècle, où on verra tout ce qui est l'érotisme délégué au harem, aux femmes orientales, noires, d'Afrique du Nord ou du Proche-Orient, qui seront dans les harems, tandis que les femmes blanches catholiques, etc., elles seront corsetées, etc. Mais il y a une hypocrisie, et donc là c'est pareil. Les classes sociales inférieures, paysans, etc., eux, sont près de la nature, donc ils peuvent batifoler, etc., donc on peut les représenter. C'est déjà plus délicat de représenter réellement les adultes aristocrates en train de faire la même chose, sauf pour des cabinets privés. Mais dans la peinture officielle, le fait que ce soit des bergers, ça passe déjà plus. Alors voilà toujours François Boucher, alors c'est d'une grande élégance, mais vous voyez, il n'y a pas l'espèce de nervosité. Il n'y a pas l'espèce de tension qu'il y a chez Watteau. Hein, chez Watteau, la lumière, la certitude du sol, une certaine tension, les jeux de brillance superficielle des habits. Chez Boucher, au contraire, on sent que Boucher nage là-dedans avec une sorte d'opulence et sans aucun regard critique. Il n'y a pas de tension chez Boucher, au contraire. Hein, d'où d'ailleurs son grand succès, effectivement, parce qu'il est un peu le chantre de cet état des choses. Alors, un qui est terrible aussi, extrêmement dérangeant, c'est Greuze, G-R-E-U-Z-E. Alors, on le connaît tous dans les lagards des Michards, parce que vous aviez les peintures morales de Greuze, le retour du fils prodigue, le père mourant, etc. Des grandes scènes comme ça, édifiantes, un petit peu d'une sorte de morale pour le peuple, un petit peu. Mais vous avez aussi les peintures de jeunes filles de Greuze, qui, pendant longtemps, pouvait sembler charmante. Ouais, la jeune fille avec son oiseau mort, bon, son oiseau blessé, etc. Mais elle est quand même dans un tissu légèrement dérangé, et l'oiseau mort, eh ben, c'est l'oiseau aussi, c'est comme la virginité. C'est qu'elle a perdu sa virginité, très clair. Et, or, elle a à peine 10 ans. Et elle a les cheveux défaits, elle est presque en chemise de nuit, avec une épaule dénudée, etc. Et ça, c'est des peintures qui étaient dans les salons. Et attention, tout le monde savait très bien de quoi il s'agissait. Tout le monde savait très bien de quoi il s'agissait. Et j'ai même eu un choc. C'est que j'aime beaucoup le philosophe, écrivain, encyclopédiste Denis Diderot. Et Diderot a fait des salons. Et dans un des commentaires que Diderot fait d'une des peintures de Greuze, il dit clairement, attendez, c'est pour la cruche cassée, on verra plus tard, il dit clairement, ah ben on aimerait bien être le responsable de la cruche cassée. Et en gros, on aimerait bien avoir soi-même été celui qui avait défloré, etc., entre guillemets, cette fille. Donc c'est assez atroce. En fait, vous avez effectivement une sorte de pédophilie qui est d'abus, hein, d'âge, de pouvoir, de situation sur une jeunesse, entre autres, hein, et qui est totalement tolérée. Alors, qui n'est pas explicite, enfin qui n'est pas dite clairement, mais qui est très souvent à peine voilée, puisque tout le monde sait de quoi il s'agit.
Quel est le seul lieu ?
Ah ben là, c'est souvent, alors dans les milieux populaire, il n'y a pas de représentation. Et dans les milieux d'aristocratie ou de bourgeoisie, c'est quelque chose qui passe très bien. Ceci, c'est la vie de longtemps. Hein. Les petits rats d'opéra, et encore. Voilà. Donc, mais là, les peintures de Greuze, là où on est trompé, c'est qu'elles ont souvent été vues comme des peintures de l'innocence, ou de la fraîcheur, ou presque des poulbeaux, la jolie petite fille, etc. Mais c'est pas ça du tout. Ce sont des peintures qui très clairement montrent des objets sexuels, des proies. Et là, avec son petit mouton, son petit agneau, et vous avez même ici la naissance du sein, etc., qui est à peine pubère, etc., totalement dévoilée et mélancolique. Et Greuze n'a pas. Et là encore, vous avez cette très jeune fille dévoilée, etc., et qui, effectivement, les roses qu'elle tient devant le public, etc. Avec cette idée. Alors, là où c'est d'autant pire, c'est qu'ils n'ont pas l'air heureuses. Vous avez aussi cette idée. Et de la part de Greuze, c'est, je ne pense pas que ça soit de la compassion. C'est comme ça. Donc, c'est pas. Là encore. Alors, ça, c'est. Alors, justement, alors, tu parlais des milieux sociaux. Celle-ci, justement, elle s'appelle. Mais elle évoque justement. Sans doute une femme de ménage, de maison, ou qui est dans les. Dans les etc. Et qui a des fleurs, etc. Et qui elle aussi. Alors je ne sais plus ce qu'elle montre dans la main, mais voilà, soit que c'est une encre, une clé, ou alors une boussole, peut-être un cadeau qu'on lui a fait, une sorte de babiole. Hein, et là encore, elle est dans des draps d'effet, etc. Avec des choses qui évoquent, donc là, hein, des lacets, ou un coquillage, il y a presque quelque chose qui est. Sexuel dans les couleurs, etc. Et là encore, hein, visage, un peu, il n'y a pas que les habits qui sont défaits, le visage semble aussi défait. Là aussi, l'oiseau mort, alors là, c'est. Ça, je vous l'ai montré. Ah, ça, c'est la paresseuse italienne. Ah oui, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est que. La paresseuse italienne. La paresseuse italienne, mais effectivement, un peu l'espèce de désordre, mais finalement, faut pas sous-estimer le côté prédateur de certains peintres, de certains spectateurs, qui voient ici, là encore, sans doute, un fantasme de la bonne, hein, ou de la femme, justement, qu'on ne va pas respecter, hein, soit c'est la femme de ménage, soit c'est l'enfant. Vous avez toujours cette idée aussi d'une domination, puisque, un, vous avez quand même le monde féminin, deux, vous avez besoin de l'enfance, enfin, abusé, ou l'infériorité sociale dont on va pouvoir abuser aussi, ou le fait qu'elle soit une étrangère. Donc on va sans doute mépriser, mais sans doute abuser. Ou on va fantasmer, elle est dénudée, etc. Donc, alors que dans le même temps, vous allez avoir aussi un contrôle du corps, etc. Donc vous voyez que, et ça c'est toujours Greuze, hein, le charmant Greuze. Et là aussi, l'oiseau mort, alors elle se désole de l'oiseau blessé, donc vous voyez, c'est vraiment, c'est pas une peinture, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent chez quelqu'un comme Greuze. Et là encore, le petit oiseau mort avec les fleurs, etc.
Le symbolisme des fleurs.
Alors les fleurs, c'est souvent justement le pétale, la rose fanée, on a la fleur, c'est la virginité très souvent, effectivement. Donc déflorer, on dit ça aussi. Donc vous avez toute cette idée, la fleur, la virginité, etc. On va en même temps la séduction, mais éphémère aussi. Faut pas qu'elle. Et puis la jeunesse aussi. Vous avez cette idée, une jeunesse qui passe, ou alors. Toutes ces. Alors les fleurs précisément, je ne connais pas le langage précisément de chaque fleur. Il y a peut-être un langage
précis.
Ouais. Là encore, regardez cette fois-ci un portrait avec un voile et une transparence très claire. Donc vous voyez que la question de l'érotisme du XVIIIe siècle, elle est présente en peinture de façon très claire. Hein. Alors là, Greuze, au contraire, Greuze, il va faire toutes ces peintures, le fils ingrat, hein, avec le père, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut dans le. Donc vous avez aussi, c'est là où il y a quelque chose qui est quand même assez typique d'un pouvoir, c'est aussi l'hypocrisie, la morale à géométrie variable et à vitesse, hein, avec laquelle on s'arrange. Hein. D'un côté, on va affirmer les valeurs familiales, ici, ou d'autorité, ou etc. Et puis, de l'autre côté, vous avez les affaires privées, qui, elles, échappent à toute règle. Alors ça, c'est pour vous montrer aussi d'autres peintres contemporains, quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Pater, alors, que je connaissais peu, et qui est une sorte de watteau très élégant, mais on voit bien justement en comparant qu'il n'y a pas cette même tension. Regardez la lumière, regardez, on trouve de la musique, on trouve des personnages à peu près, on trouve même des personnages pas loin des mêmes rôles, mais je me permets de ne pas y voir la même virulence, la même tension, ni la même virtuosité au niveau de la façon de peindre. Alors Pater, là encore, vous voyez, c'est par beaucoup d'aspects, c'est proche, hein, on pourrait dire c'est même, mais technique, drapé, lumière, tension, violence sous-tendue, le flou aussi, c'est quelqu'un qui va moins loin dans les audaces picturales, même si c'est très élégant. Là, on reste dans l'élégance, on reste dans le jeu, on trouve des personnages ici qui sont toujours les uns avec les autres, mais vous n'avez pas la figure aussi tendue et tordue que précédemment. Là encore, même alors, il y a un érotisme très clair, par exemple, sur le dos, etc. Enfin, vous avez donc, ça, c'est assez clair, mais là encore, beaucoup d'élégance et de jeu. C'est pour ça que, et là encore, toujours Jean-Baptiste Pater, donc ça c'est au... je ne sais pas quel musée.
National
Museum. Oui, alors je ne sais plus lequel, je sais plus dans quel film. Là, toujours pareil, avec quelque chose qui est très proche du faux pas. Si vous regardez bien ici, c'est Conversation galante. Hein, mais on a quasiment la même scène, mais la mise en scène au sens strict, la façon de se tenir, la façon y compris les mains, ne sont pas du tout. Donc, en comparant, on voit bien la torsion de Watteau. On comprend mieux en comparaison. D'abord, on voit bien qu'il y a une sexualité qui est rampante et qui cherche à s'exprimer très clairement dans beaucoup de peintures, de façon parfois très explicite. Donc on peut aussi l'imaginer très clairement aussi dans les peintures de Watteau. Et on voit aussi la façon dont Watteau, avec des scènes très proches, lui aussi rajoute une dimension beaucoup plus mélancolique, hein, beaucoup plus tendue que dans le reste. Alors, Sotonia Pater, puis il y a un autre artiste qui est assez proche. Donc ça, c'est toujours Pater. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont récurrentes. Là encore, Pater, avec là encore, regardez des scènes proches, mais avec un personnage assez proche. Donc on peut... Alors Pater, c'est après Watteau. Donc on peut imaginer que Pater s'est inspiré de Watteau, mais qu'il n'en a pas saisi, sans doute, il n'avait pas non plus forcément la même tension. D'ailleurs, les personnages de Pater sont moins distants, sont plus proches, sont moins lointains, ont des visages plus marqués, de façon assez claire. Pater toujours, je ne vais pas vous montrer tous les Pater. Alors ça, c'est Nicolas Lancret. Alors, le truc, c'est que le XVIIIe siècle, si vous voulez, avec les académies royales de peinture, avec le pouvoir central, avec l'espèce de pouvoir centralisé et des normes établies de façon très stricte par l'Académie et les rois et la cour toute puissante, il y a peu d'artistes qui s'écartent. Donc on est aussi dans un carcan au niveau des modes de représentation, d'où il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ressortent. Ceux qui ressortent, c'est des artistes qui sont souvent marginaux, parce que des gens comme Boucher ou le jeune Fragonard ou Lancret ou Pater, etc., semblent des accompagnateurs, des illustrateurs un petit peu d'un monde qui ensuite ne concerne que la cour. C'est très narcissique. Vous voyez, on est vraiment dans la représentation de son monde sans distance, sans recul, sans événement critique, sans y compris qu'on voit très bien quel est le point de vue de Lancret ou de Pater lui-même. Alors que chez Watteau, c'est comme si Watteau mettait un coin dans un monde. Et voyez aussi les fêlures et les brèches qu'il voyait dans ce monde qu'il regarde vu de l'extérieur comme déjà finissant et perverti. Là, vous voyez, on est assez sage hein, dans la balançoire. Alors, vous avez une autre version de la balançoire de l'escarpolette par Fragonard, mais Fragonard, c'est quelqu'un qui lui aussi sera dans la tension, où la balançoire s'envole clairement et on voit sous les jupes. Hein. Alors, là encore, le bain, toujours de Nicolas Lancret. Là encore, ah ben ça c'est Watteau. Et là on voit bien tout à coup le côté de Watteau. La touche. Ah ça, alors ça j'étais étonné parce que justement j'ai vu ce qu'il a dit en dire de Brest. Ah, C'est une de mes ancêtres qui est là, mais donc...
Il est là-bas en coin.
Alors, les vivants dire de Brest, justement, vous avez aussi, si je veux parler de la sexualité plus explicite, quand il s'agit de personnages des classes sociales, justement, soit ce sont des vivants dire, qui sont les femmes qui travaillent à l'arsenal, souvent, et au port, hein, ou qui suivent les armées, hein, et là, effectivement, là, on n'est pas du tout dans le respect ou les échanges, etc. Donc là, c'est encore une peinture qui a une connotation sociale. Là, toujours, alors, elle est tombée, et donc, voilà. Donc, toujours Perrette et le Cotolet, etc. Alors là, vous avez vu quelque chose qui est assez proche, regardez au niveau de ses mains, son visage, on n'est pas très loin de bateau, mais il est plus loin, hein, et ce sont presque des scènes de théâtre qui sont jouées ici. Vous avez même, y compris chez Lancret, le Pierrot. Mais c'est pareil, je pense que sans faire de l'abus d'interprétation, il n'y a pas la force, il n'y a pas l'espèce d'émotion qui peut y avoir chez le Pierrot de Watteau. Donc oui, Watteau, en fait, il s'inscrit quand même dans des genres, dans des codes, mais avec une personnalité qui est notable. Là encore, un petit roi. Avec là encore, je suis désolé sur les trucs, j'ai du mal à trouver les bons documents, hein, donc il y a des sortes de... machin truc, surimpression. Voilà. Et là, vous avez quelque chose qui est assez proche, hein, quand même. Donc, on voit une influence de Watteau, parfois. Là.
Ah, c'est mon drôle.
Ça aussi, alors, ça, c'est le mari trompé et sa femme. Donc, là aussi, alors, le mari trompé par sa femme, il a le droit de la châtier, mais alors, lui, de son côté, peut tromper comme il veut, jouer, etc. Donc, ça aussi, c'est quand même assez clair. On n'est pas loin d'une certaine morale. La géométrie variable qui s'établit. Alors, ce monde finissant, c'est assez clair, hein, c'est que celui il se fissure au XVIIIe siècle, il se fissure d'un peu partout, puisqu'ensuite on va avoir les philosophes, il y a Voltaire, Diderot, Rousseau, etc. Vous avez donc pas mal de gens qui pensent autrement, et c'est quelque chose qui tient plus au sens strict. Hein, donc c'est quelque chose qui tient plus. Qui va se fissurer par les guerres, inégalités sociales, l'émergence de nouvelles classes sociales. Et c'est d'ailleurs justement ce que je voulais vous montrer dans le sujet suivant. C'est en ce sens-là où il y a quelque chose qui n'est pas du tout, qui est même assez cohérent. C'est qu'au XVIIIe siècle, vous allez avoir, et c'est pour ça que là, j'avais dans... Ah ! Sur Chardin, je commence tout de suite parce qu'en fait la prochaine fois, mais il faut que je le retrouve. Zut, attendez. Donc Chardin, et j'avais repéré La Pourvoyeuse. La Pourvoyeuse, c'est cette peinture qui est au Louvre, qui est bien connue et qui est ici. Alors j'ai des documents de meilleure qualité, mais en fait ils sont sur une autre clé. La Pourvoyeuse, justement, donc de Jean-Baptiste Siméon Chardin. Et Jean-Baptiste Siméon Chardin, donc on est aussi au XVIIIe siècle.
C'est pas Télard de Chardin.
Non, c'est pas lui. Donc, et là, vous avez justement il aurait été contemporain de Chardin, c'est de Watteau si Watteau n'était pas mort, c'est bête à dire, mais Chardin était un peu plus jeune que Watteau, je ne sais plus exactement les dates de Watteau d'ailleurs. Et c'est un peintre qui, lui, va justement, et c'est pour ça que j'ai choisi ce document, va être un peintre d'un autre monde, de façon très très claire. Alors, il est quand même au XVIIIe siècle, et il va réussir à s'affirmer en mettant en scène, comme par exemple ici dans La Pourvoyeuse, une femme d'un milieu social très modeste, qui n'est pas du tout ici représentée comme un objet ou une proie, on va dire sexuelle ou désirable ou désirante, même pas, elle est au travail. Elle est représentée dans sa fonction sociale de travailleuse qui ensuite a cette fois-ci un corps qui est en harmonie ou qui est façonné par son travail qui le portait des charges lourdes. Hein. Donc c'est un travail, vraiment c'est le Deliveroo, c'est vraiment Home Delivering Pizza Company, etc. C'est vraiment quelqu'un qui n'est même pas dans la production, c'est quelqu'un qui a un métier vraiment sociologiquement très, très peu reconnu, mais qui pourtant, et c'est là la subtilité de Chardin, mais qui pourtant a une certaine coquetterie, Regardez les rubans, ses chaussures, elle a un collier, une médaille, une coiffe relativement sophistiquée, etc. Et puis, même s'il a un bleu de travail, c'est vraiment une sorte de tablier bleu, etc., elle est, la façon dont ses manches sont relevées, dont elle se pose, etc., c'est quelqu'un qui a quand même soin de sa personne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un mépris d'elle-même. Hein, elle a même une certaine dignité. Et quand on compare, justement, avec les figures de Watteau, on a quelque chose presque d'opposé entre des figures d'une aristocratie finissante, des sortes de poupées dans des habits brillants, superficiels, hein, mais qui ont même plus tellement de dignité, qui sont une sorte de naïveté parce qu'elles ne savent plus ni que croire, ni qui croire, etc. Là, vous avez au contraire quelqu'un qui s'affirme dans sa simplicité. Alors regardez aussi avec Chardin la différence de touche. La touche de Chardin, c'est la façon de peindre, c'est quasiment aussi presque l'opposé. On est dans une touche épaisse, lente, sûre, quelque chose qui s'affirme, hein, dans des couleurs. Alors là, on n'est plus du tout dans les couleurs vert, bleu, brillante, on est au contraire dans les couleurs primaires, les couleurs fondamentales, des bruns, des ocres, et puis même, et c'est là où le rapport à Vermeer n'est pas très loin, c'est qu'on est aussi dans le bleu-jaune-rouge. Le bleu-jaune-rouge, couleur primaire. Et puis l'épaisseur de sa touche. Sa touche, elle est rassurante. Elle est rassurante ben, comme la nourriture que porte la pourvoyeuse. Le pain, la viande, la nourriture. Quelque chose qui nourrit. Et là, le corps, rappelez-vous la différence avec le sol chez Watteau, qui est un sol flottant, incertain, etc. Là, au contraire, là, la structure est extrêmement pyramidale. Ploup, ploup. Hein. Vous avez la lumière qui vient de gauche et l'ombre à droite. Vous avez des matériaux simples comme le bois, rassurant, une sorte d'étain, un cuir un peu usé, et des bouteilles en verre un peu foncé. Et puis derrière, on verra aussi. Alors, vous avez aussi un monde intérieur, un monde clos, mais dont elle peut sortir. Et de façon très claire, justement, Chardin qui est contemporain, vous avez ici quelqu'un qui nous peint clairement le tiers-état, et les classes populaires, ou le monde qui, et c'est là où c'est, je développerai ça la prochaine fois, vous avez Chardin aussi des gens qui n'ont pas accès directement à la lumière. Ils ne sont pas dans la lumière, ils sont dans une lumière cachée, mais en même temps ils sont forts, ils sont essentiels, ils sont puissants, ils ont une certaine dignité. Alors, ce serait de la surinterprétation de dire, mais ils sont déjà aussi en bleu-blanc-rouge, qui n'est pas encore le drapeau français, mais qu'il deviendra. C'est Ben Meyer, je ne sais plus ce grand critique d'art, qui parlait des couleurs de la peinture française, le bleu et le rouge. C'est vrai qu'on trouve ça assez traditionnel dans la peinture française. Donc, vous avez Chardin et la pourvoyeuse, et on verra qu'il y a d'autres peintures autour de Chardin qui vont développer la même idée. De façon très claire, hein, une sorte d'hommage rendu à une classe sociale avec une peinture qui est très cohérente. Et puis, si vous regardez aussi, on peut sortir par la pièce ici. Hein, et dans la pièce, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fontaine à eau, on verra plus tard. Vous avez une autre servante ici, avec un homme qui passe la tête par la porte. On voit un tout petit coin de ciel bleu, mais si on voulait sortir, ben on ne peut pas sortir, on revient vers le centre. Hein. Donc avec Chardin, vous avez quand même cette idée d'un monde enfermé, on étouffe un peu. On étouffe un peu et le corps est presque trop grand pour l'espace qui le contient. Alors c'est aussi une surinterprétation de ma part, mais c'est pas grave. Ce sont des forces en puissance. Et si vous regardez bien, c'est là où je vais faire la révolution française en accéléré, il y a d'un côté un monde fragile, finissant, qui ne tient pas la route, et qui a plus de valeur, et de l'autre, vous avez en dessous un monde solide qui pousse, qui est sûr de lui, qui n'a pas le droit à la lumière. Vous inversez, et vous avez la révolution française. Ça, j'ai dit ça. Et on verra avec Fragonard comment ça continue. Alors, je continuerai dans 15 jours sur Chardin. Et si vous allez au Louvre,